Chapitre 62. La douceur des sorcières. En ce début de semaine, Karine s'est réveillée revigorée. Elle est finalement restée le samedi soir, la nuit, puis le dimanche avec Frédéric Legrand. Ils ont traîné sous les draps, se sont promenés sur la crête, ont cuisiné trois bricoles trouvées dans le placard, se sont raconté leur vie, celle des autres, ont refait le monde, conclu à leur impuissance à le sauver. Ils ont vibré, puisqu'il ne reste que l'amour pour se rassurer. Puis il l'a déposée au sens perdu, avant de rejoindre son logement de fonction en ville, ses dossiers macabres, sa routine de technicien passionné et blasé. Karine a attendu que Clémence revienne de la fromagerie pour l'emmener à son rendez-vous avec la fille de la sage-femme à une dizaine de kilomètres. Capucine leur a prêté sa voiture. La petite n'est pas rassurée. Elle observe chaque véhicule, scrute le rétroviseur. Elle tient son sac à dos contre son ventre, comme si on voulait le lui prendre. Elle y a glissé un carnet de notes, son herbier, un livre de plantes sauvages. Des fois qu'elle s'ennuierait. Victoire Moisson habite une maison en retrait de la route, au bout du village. Le jardin est foisonnant et contraste avec la pelouse anglaise des voisins. Des carillons en bois, installés sur les vieux fruitiers tordus éparpillés sur le terrain, chantent en cliquetant sous le vent léger. Belle, lumineuse, la vieille dame vient à leur rencontre en entendant la voiture se garer. De longs cheveux blancs tombent sur ses épaules. Ses yeux sont en amande, entourés de rides profondes. Elle porte d'amples vêtements, propres mais usés. Des sandales aux pieds. Elle se tient droite malgré son grand âge, à peine un peu penchée sur le côté gauche. Les trois femmes évoquent la météo, la chaleur, les pluies qu'on attend à nouveau. Les deux orages de juin et de juillet ont rencontré un sol tellement dur que l'eau n'a pu y pénétrer. Les réserves à chaque coin de gouttière sont déjà vides. Son potager est grand, il souffre de la soif. Puis, elle installe Karine et Clémence à l'ombre d'un érable taillé en parasol. Quelques minutes plus tard, elle les rejoint avec un plateau, une cruche, des verres, quelques gâteaux et un cahier épais et fatigué, gonflé de photos et d'articles de journaux.
« Que voulez-vous savoir ?»«
Je cherche à mieux connaître votre mère. »«
Pourquoi ?»«
Je vais vous dire la vérité. » Rien ne sert de tourner autour du pot, ni pour vous, ni pour moi. Nous avons trouvé trois squelettes de bébés au fond d'une cavité dans une parcelle de forêt. Des stèles datant de la guerre évoquent pour chacun une année de naissance, 1942, 1944, 1945.
Et vous croyez que ma mère est impliquée?
Je cherche dans toutes les directions.
La vieille femme a baissé les yeux. De la tranche de la main, elle range en un petit tas ordonné des miettes du repas précédent éparpillées sur la toile cirée.
Quelqu'un l'a dénoncé?
Un monsieur du village d'à côté. J'ai cru comprendre qu'il y avait un différend entre eux.
Sûrement, Léon. J'ai l'habitude.
Victoire saisit la cruche et sert un verre d'eau à la menthe à chacune. Elle tend à Clémence l'assiette de gâteau, des sablés à la noisette, à la fleur de capucine et à la petite oseille, précise-t-elle. La gamine est intriguée. Elle en attrape un et l'entame discrètement. Elle aime la petite touche d'oseille, avec la rondeur de la noisette, la couleur des fleurs prises dans la pâte. Elle le trouve excellent. Ni trop sucré, ni trop gras. Croustillant et moelleux, avec une petite pointe d'acidité. Clémence est fascinée par les longs cheveux, les rides au coin des yeux, le sourire, l'œil perçant de celle qui sait, qui maîtrise, qu'on écoute pour son érudition. Elle l'admire en silence. Victoire se tourne vers elle, plante ses yeux dans ceux de la gamine un long moment avec une douceur infinie. Karine n'ose plus parler.
« Il n'y a pas un peu de menthe dans les gâteaux aussi ?»
essaie Clémence.
« Si, en effet, tu as le goût finement développé. Bravo !» Je mets deux feuilles pilées de menthe poivrée pour apporter un peu de fraîcheur.
Victoire pousse discrètement l'assiette vers Clémence pour l'inviter à en prendre un deuxième.
ce qu'elle fait, un peu honteuse. Ma mère était dure, mais intègre. Elle a dû se battre seule pour exercer son métier, faire reconnaître les droits des femmes, les accompagner, les soulager. Elle a appris les vertus des plantes auprès de celle qu'on appelait déjà la sorcière et qui vivait seule à l'écart du village, la maison pleine de potions. Ma mère a hérité de son sobriquet. Si elle avait vécu en Bretagne, on lui aurait plutôt attribué le titre de druidesse. Clémence ose lui demander si sa mère lui a transmis tout son savoir en termes de botanique et de potions. Tout ce qu'elle a pu avant de mourir. Le reste, je l'apprends encore dans ses vieux livres. Notre nature est foisonnante et précieuse, plus utile qu'on ne pense. On peut manger des herbes sauvages et les trouver bonnes, ou les utiliser pour se soigner, pour guérir ou soulager certains maux, à condition de bien les exploiter. Une femme est morte encore récemment d'avoir confondu l'ail des ours avec du colchic. On me traite aussi parfois de sorcière. J'ai hérité de ses connaissances et des préjugés qui l'accablaient. Elle était crainte dans la région, pour sa maîtrise parfaite des plantes, y compris les plus toxiques. Je suis moins actif qu'elle, dans une période moins troublée, mais j'ai quand même parfois l'impression d'être mise au banc parce que je sors du rang. Sous prétexte que les graines viennent polluer leur pelouse stérile, certains voisins se plaignent parce que je laisse les herbes hautes sur mon terrain pour la biodiversité et les insectes. Je m'en fiche. Je suis du côté de la vie depuis que ma mère a sauvé la mienne, ainsi que celle de nombreux autres bébés.
La femme leur raconte son histoire, le contexte dans lequel elle est née, la présence de cette sage-femme qui l'a recueillie et adoptée. Sa mère biologique n'a pas été tondue, son père n'était pas un Allemand, mais elle a été rejetée par sa famille.
« Les femmes étaient tondues ?» s'étonne Clémence.
Karine prend quelques instants pour resituer le contexte, la fin de la guerre, la libération, le déchaînement de violence envers ceux qui avaient approché de trop près l'ennemi, en particulier les femmes qui avaient osé coucher avec eux, la tonte en place publique, le défilé sur des charrettes, sous les crachats et les huées.
Clémence frissonne. Américain ? Nisei, vous connaissez leur histoire ?
J'ai lu des documents récemment.
Moi, je n'ai rien lu, ajoute Clémence, de plus en plus intéressée.
Victoire Moisson relate alors la terrible épopée des Américains d'origine japonaise.
Les AJA, American of Japanese Ancestry, dit-elle avec un accent parfait, étaient soit des émigrés japonais, soit des descendants de ceux-ci. Les Nisei désignent les enfants des premiers immigrants, donc nés sur le sol américain.
Les rôles sont inversés et la vieille dame devient professeure d'histoire. Elle explique le pacte du Japon avec l'Allemagne et l'Italie en septembre 1940, la volonté de ce pays de prendre le contrôle du Pacifique par l'attaque de Pearl Harbor, sur l'île d'Hawaï, alors sous contrôle américain.
Les Américains, dont les pertes ont été énormes durant cette bataille éclair, déclarent alors la guerre au Japon, et le racisme déjà présent envers les AJA s'exacerbe. Roosevelt signe un décret qui enverra plus de 100 000 d'entre eux, dont les deux tiers étaient nés aux États-Unis, dans des camps de concentration. Numéro matricule, baraquement insalubre, conditions de vie terribles, simplement à cause de leurs origines.
Elle poursuit en expliquant que, la guerre s'installant dans la durée, les troupes américaines avaient besoin de bras. En parallèle, les AJA voulaient prouver leur intégrité, leur appartenance à l'identité américaine, et se sont portés volontaires pour aller combattre en Europe aux côtés des GI. Ainsi se sont formés le 100e et le 442e bataillon uniquement constitué d'AJA, appelés « petits hommes d'acier » en raison de leur taille et de leur détermination au combat.
Les Nisei, parfois très jeunes, ont laissé aux habitants d'ici le souvenir de soldats toujours souriants et d'une grande gentillesse. Ils traitaient la population civile avec compassion et respect, n'hésitant pas à partager leurs rations avec les habitants, contrairement aux ordres reçus. Ma mère biologique est tombée amoureuse de l'un d'eux. Elle avait 18 ans et s'occupait de la cantine pour les troupes basées à Bruyères.
Il l'avait regardée avec une tendresse qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un coup de foudre éphémère, juste avant le sauvetage du bataillon perdu. Quelques mois plus tard, son père a failli la tuer en découvrant le ventre qu'elle n'arrivait plus à cacher. Caroline est arrivée à temps. Elle a frappé l'homme avec la barre de fer qu'elle attachait toujours à son vélo pour se défendre quand elle battait la campagne la nuit au secours des femmes en travail.
« Le bataillon perdu ?»
interroge Clémence. « Je t'expliquerai, » lui répond Karine, pendue aux lèvres de Victoire. La future mère a été recueillie chez la sage-femme jusqu'à son terme. Une petite fille est née quelques semaines plus tard.
« Tu étais belle comme l'amour, » m'a dit un jour Caroline. « Elles m'ont appelée Victoire, en hommage à mon père, mort sur la crête pour sauver le bataillon texan. » « Je ne vais plus là-haut, c'est devenu trop loin, mais toute ma vie, j'ai fleuri l'arbre où est accrochée la plaque commémorative, soulignant son acte de bravoure durant les combats. »
Puis, elle évoque la politique nataliste sous Pétain. Travail, famille, patrie. Un père, une mère et de nombreux enfants pour relancer l'économie de la France. Les femmes à la maison pour procréer et les plus fertiles récompensées par des médailles et des avantages fiscaux.
Et surtout, l'avortement devient un crime contre la sûreté de l'État. Je ne sais plus en quelle année. En 1942, je crois. Les avorteuses étaient vues comme des saboteuses des matrices des femmes, indispensables à la reproduction française. Elles étaient dénoncées, certaines décapitées. En tant que sage-femme, ma mère était à la fois très sollicitée, car les médecins étaient réquisitionnés sur le front, mais également très surveillée. En raison de cette chasse aux faiseuses d'anges, elle aidait toutes les femmes, y compris celles qui ne voulaient pas d'enfants, quelle qu'en soit la raison. Elle a aussi intégré la résistance. Les sages-femmes avaient l'énorme avantage de disposer d'un pass pour circuler de jour comme de nuit. C'est un miracle qu'elle ait survécu à cette période. La délation était monnaie courante pour obtenir de petits avantages personnels ou par simple vengeance.
Elle n'a jamais été dénoncée ?
Victoire se lève en silence, en se frottant le visage, comme pour se réveiller d'un cauchemar. Elle retourne dans la maison. Durant son absence, Clémence se promène dans le jardin. De petites plaquettes en ardoise sont fixées au bout de bâtons pour indiquer les essences des plantes. Elle en connaît certaines, découvre les autres. La vieille femme réapparaît, une boîte en fer dans les mains. Elle raconte alors ce jour, après la libération, où la sage-femme a été cueillie chez elle par un groupe de villageois, dont le père qu'elle avait frappé. La violence dans leurs yeux, la douleur quand ils l'ont tirée par les cheveux pour la jeter dans une charrette et l'emmener sur la place du village, le bûcher improvisé monté à la hâte.
Elle a cru qu'elle allait mourir brûlée vive. Ils étaient en train de l'attacher quand un coup de feu a retenti. Le père des frères Poirot était au bout de la place, son fusil dans la main. Il a promis la cartouche suivante à celui qui la toucherait encore.
Clémence a cessé de grignoter son troisième biscuit. Son estomac se noue quand Victoire précise qu'ils avaient eu le temps de la tondre et de lui arracher une partie de ses vêtements. Un silence s'instaure entre les trois générations. Des échanges de regards et des sourires tristes résument le combat des femmes depuis la nuit des temps. Et le chemin qu'il reste à parcourir.
J'aimerais vous renseigner, mais ma mère ne notait rien pour se protéger, surtout pendant la guerre. La seule chose que je sais, c'est qu'elle a parfois prêté main forte dans une maison qui accueillait des femmes enceintes, pas très loin d'ici. J'ai vu cette maison. Les actuels propriétaires ont gardé du matériel d'accouchement retrouvé sur place. Les squelettes correspondent à des bébés à terme ?
« Manifestement, oui.
Ils sont peut-être morts-nés.
Mais pourquoi auraient-ils été enterrés là ?»«
Pour les cacher ?»«
Quelle était la couleur des cheveux de votre mère ?» La femme saisit la boîte métallique. Elle contient des objets du passé. Une mèche y est conservée. Karine la regarde en silence. Avant que Clémence ne monte dans la voiture, Victoire Moisson lui demande si elle s'intéresse aux plantes, si elle aimerait apprendre. Dans les yeux de la petite, une lueur d'envie, un pétillement d'avenir.
« Reviens dimanche matin, si tu veux. »
Clémence ignore encore à quel point cet apprentissage va la libérer du passé, l'aider à se fondre dans le vivant et se sentir puissante. La force que la nature va lui insuffler et les actes qui vont en découler.